Seigneur, au moment où nous méditons ta parole, nous évoquons, nous implorons ton esprit qui nous aide à la compréhension, qui nous engage dans la réflexion et qui nous mette en mouvement, une fois qu'on aura reçu ce que tu as à nous dire. Oui, Seigneur, par l'œuvre de ton esprit, fais que ta parole soit comme l'eau qui nous rafraîchit, qui nous donne vraiment une source de vie. Que ta parole soit comme le feu, embrase-nous en elle et donne-nous, à travers ta parole, de vivre dans une foi ardente. Que ta parole soit comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous puissions saisir la hauteur, la largeur, la grandeur de ton amour. Que ta parole soit comme la terre, enracine-nous en elle, afin que nous puissions croître et porter du fruit de paix, de justice et d'amour. Amen. Tout d'abord, c'est une joie de vivre ce culte avec vous ce matin. Une joie de méditer ensemble la parole avec vous. Vous savez, après avoir abondamment et joyeusement fêté Pâques, la résurrection du Christ, nous entrons maintenant à la veille de l'Ascension pour nous préparer à la Pentecôte, dans un temps où les textes bibliques nous invitent plus précisément à méditer sur le mystère du Saint-Esprit. Nous avons entendu tout à l'heure un passage tiré des dernières paroles adressées par Jésus à ses disciples avant son départ. Tout dans ce récit laisse percevoir le bouleversement intérieur de ce qui l'entoure. Une inquiétude profonde traverse les proches de Jésus. Le désarroi s'installe, quelque chose vacille dans leur manière même d'habiter le monde, parce que leur maître parle de partir. Et cette séparation ouvre devant eux une zone d'incertitude, une zone obscure où se mêlent incompréhension, tristesse et perte de repère. Alors Jésus cherche à déplacer leur regard. Il cherche à rouvrir devant eux un chemin respirable. Il leur annonce la venue d'un paraclet, une présence appelée à demeurer auprès d'eux, à accompagner leurs pas, à prendre place jusque dans l'espace le plus intérieur de leur existence. Ils ne seront donc jamais abandonnés à l'état d'orphelin. Jésus leur promet une paix. Une paix leur sera donnée, une paix étrangère à celle que produit le monde lorsqu'il cherche à rassurer ou à sécuriser les existences. Une promesse magnifique et pourtant souvent difficile à accueillir. À accueillir aujourd'hui, peut-être parce que la figure même du paraclet est devenue floue dans notre mémoire chrétienne, presque lointaine dans notre langage spirituel. Dans notre prière, le Saint-Esprit n'est jamais, presque jamais nommé paraclet. Évidemment, ce mot est difficile à comprendre. Voilà pourquoi les anciennes traductions utilisaient le mot consolateur, Ce terme, trouvé spontanément un écho dans des vies qui connaissent la fatigue, les blessures, les traversées douloureuses. D'autres traductions parlent du défenseur. Et quant au mot paraclé, il demeure mystérieux pour beaucoup, puisqu'il s'agit simplement du terme grec retranscrit tel quel, comme si l'attraction avait renoncé à épuiser sa richesse. Paraclétos désigne littéralement celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Le latin traduit cette idée par advocatus, l'avocat. Et effectivement, en français, nous retrouvons alors la figure de l'avocat, celui que l'on appelle pour se tenir à nos côtés et parler en notre faveur. Bien sûr, cette image juridique demeure partielle. Le paraclé rejoint aussi celui qui soutient dans l'épreuve, qui relève lorsque les forces manquent, qui accompagne l'humain au cœur même de ses fragilités. La signification, donc, demeure ample, ouverte, presque impossible, enfermée dans une définition unique. Pourtant, cette image de l'avocat mérite peut-être que nous nous y arrêtions un instant, tant elle rejoint certaines expériences très concrètes de l'existence. Car beaucoup de vies avancent avec le sentiment diffus d'être continuellement exposé au jugement. Certains portent en eux le regard accusateur des autres comme une présence permanente. D'autres vivent avec une mauvaise conscience tenace, nourrie par l'impression de ne jamais atteindre ce qu'ils attendaient d'eux-mêmes. À tout cela, Jésus annonce que l'esprit appelé à prendre sa suite deviendra comme un avocat intérieur, un défenseur intime capable de faire face à toutes les voix accusatrices. Et l'apôtre Paul emploie d'ailleurs une image voisine parce que lorsqu'il écrit dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de Dieu ? Qui condamnera ?» Ainsi demeure en nous une force venue de Dieu qui prend notre défense au cœur même des situations les plus difficiles. Quelque chose veille en profondeur. Quelque chose soutient encore lorsque tout semble vaciller. Voilà une promesse qui mérite d'être reçue comme une réalité capable de transformer une existence. Et j'aimerais m'y arrêter brièvement à travers trois dimensions qui touchent à des expériences humaines très différentes et pourtant profondément liées les unes aux autres. Il faut d'abord revenir à la situation de la communauté joannique, c'est-à-dire la communauté à laquelle Jean destine ses lettres. Cette communauté traverse un temps de persécution. Les discours d'adieu de Jésus portent encore les traces de ce climat tendu où le monde devient accusateur à l'égard des disciples. Ceux qui suivent le Christ découvrent qu'ils devront affronter les mêmes oppositions que leur maître. Dans un tel contexte, la promesse du paraclet prend immédiatement une portée concrète. Afin de demeurer debout dans leur foi, afin de tenir ensemble malgré les pressions extérieures, les disciples ont besoin de sentir qu'une présence les accompagne et les défend. Leur défenseur devient alors l'Esprit Saint lui-même. Cette parole continue aujourd'hui encore, je crois et j'espère, de rejoindre tous ceux qui subissent des persécutions à cause de leur foi chrétienne, et qui trouvent là une force pour continuer leur route. Quant à nous, même dans des sociétés où les formes de pression paraissent moins visibles, cette promesse garde pourtant toute sa portée. L'indifférence environnante produit parfois une forme d'effacement intérieur. Beaucoup hésitent à exprimer leurs convictions. Beaucoup préfèrent taire leur espérance afin de demeurer accordés au conformisme ambiant, au conformisme général. Certaines manières de vivre inspirées par l'Évangile paraissent décalées, presque étrangères aux logiques dominantes. Du coup, témoigner dans un univers traversé par cette indifférence demande parfois autant de courage qu'affronter une hostilité ouverte. Là aussi, nous avons besoin d'un paraclet, d'un avocat, d'un défenseur. Et puis, une autre dimension, la deuxième dimension, touche davantage la vie intérieure. Dans sa dimension psychologique et peut-être morale. Toute une tradition chrétienne a présenté la conscience comme une voie de Dieu déposée au plus intime de l'humain. Pourtant, cette voie prend souvent la forme d'une accusation subtile. Beaucoup de croyants sincères vivent comme s'ils comparaissaient en permanence devant un tribunal invisible. Il est alors important de rappeler qu'en hébreu, le mot « Satan » désigne précisément l'accusateur. Et le paraclet apparaît dès lors comme l'anti-Satan, comme celui qui vient réduire au silence toutes les voix qui écrasent l'existence. Il devient celui qui relève l'humain au lieu de l'enfermer dans sa culpabilité. Lorsque la mauvaise conscience continue de peser malgré l'annonce du pardon, entendre cet avocat intérieur devient une expérience profondément libératrice. Lorsque nous nous imposons des objectifs impossibles à atteindre et que nos échecs finissent par envahir tout l'espace intérieur, il devient vital de demeurer à l'écoute de cette présence qui prend notre défense. Car le paraclet apaise la conscience et il redonne du souffle. Le paraclet dessert ce qui enferme l'existence afin que l'humain puisse marcher dans la vérité. Et c'est ça, l'esprit de vérité dont le Christ parle dans ce texte. Vérité, pas au sens empirique, ni au sens objectif, mais vérité subjective, existentielle, vérité par rapport à soi-même, vérité libératrice. Le paraclet reçoit le nom d'esprit de vérité. Et cette vérité-là ne repose ni sur nos réussites, ni sur nos performances. Elle ne dépend pas davantage de nos échecs ou de nos insuffisances. Elle prend racine dans une parole plus profonde. Nous sommes enfants de Dieu, aimés d'un amour qui précède tout mérite. Et ça rejoint, évidemment, la sola gratia de notre théologie protestante luthérienne. Dans une société façonnée par l'exigence de performance et par la recherche permanente d'excellence, qui n'est pas mauvais en soi, je tiens à préciser, réentendre cette voix intérieure qui soutient au lieu d'écraser devient salutaire, profondément salutaire. Et puis une troisième dimension, la dernière, touche à l'expérience spirituelle elle-même, jusque dans les régions les plus sombres de l'existence. Et la Bible donne à voir cette expérience à travers la figure de Job. Lorsque l'épreuve devient trop lourde à porter, lorsque la souffrance envahit toute la vie, peut surgir l'impression terrible que Dieu lui-même devient adversaire. Certains finissent alors par imaginer un Dieu qui poursuit l'humain, un Dieu qui se joue de l'existence humaine. Les longues plaintes de Job montrent comment la douleur peut déformer l'image même de Dieu jusqu'à lui donner des traits presque, entre guillemets, démoniaques. Pourtant, Pourtant, quelque chose commence à se déplacer lorsque Job ose appeler Dieu contre certaines images de Dieu. Et au cœur même de sa nuit, il pressent l'existence d'un défenseur céleste, capable de prendre sa cause en charge contre toutes les représentations destructrices qui envahissent son esprit. Quand vous serez à la maison, lisez le chapitre 16 du livre de Job. Ce chapitre marque cette remontée intérieure. Le paraclet, cet avocat intérieur promis par le Christ, qui n'est pas à l'extérieur de nous, qui est en nous, qui habite en nous. En anglais, ça exprime mieux quand on dit « indwelling », en nous. Il habite en nous, il demeure en nous. Ce paraclet devient alors une force capable de nous défendre contre ces images d'un Dieu accusateur et destructeur. Et il rappelle au cœur même de l'épreuve que Dieu demeure tourné, toujours tourné vers la vie humaine. Il porte l'assurance qu'aucune épreuve, qu'aucune accusation ne possède le dernier mot devant lui. Il rappelle aussi que rien ne peut nous arracher à son amour. Voilà pourquoi il y a cette relation entre l'amour et l'action de l'Esprit-Saint dans ce court passage que nous avons lu et entendu aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, le paraclet, c'est donc cet esprit que Dieu nous envoie pour nous convaincre de l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ en nous. C'est grâce à lui que nous croyons que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a révélé l'immense amour de son Père pour chacun et chacune de nous et pour le monde aussi. Nous savons que par sa mort, il a vaincu notre mort. Et ça, c'est une vérité objective, manifestée à travers la croix qui est devant nous. Mais cette vérité objective devient vérité existentielle lorsque l'Esprit Saint demeure en nous et que ce Christ mort sur la croix, en fait, il est mort pour nous. Ces arguments demeurent intellectuels s'ils sont nécessaires à notre compréhension des choses. Ces arguments intellectuels ne remplacent pas notre conviction intérieure. C'est pour accomplir cette fonction que le Seigneur envoie sur nous ce supplément de son esprit. Et c'est par lui que tous les acquis de la foi en Christ deviennent certitude. Il nous transforme en profondeur. Amen.